Donc Florence Éloi est maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à Paris 8, Saint-Denis. Ses recherches portent sur les cultures juvéniles, ses rapports avec la culture scolaire, l'éducation artistique et culturelle, la médiation culturelle, l'évolution des curricula scolaires. En 2015, elle a publié « Enseigner la musique au collège, culture juvénile pardon, et culture scolaire », un ouvrage tiré de son travail de thèse dirigé par Madame Pasquier. Donc, je laisse donc la parole à Florence pour une intervention intitulée « Les formes de distinction parmi les jeunes auditeurs de rap, d'une sociologie de la consommation à une sociologie de la réception ».
Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc cette communication a pour objectif de mettre en forme, de mettre en lumière, pardon, les formes de différenciation sociale observées chez les adolescents français des années 2000 en matière d'écoute de rap et de R&B. Donc pour ce faire, on va s'intéresser autant à la question de la consommation, entendue comme forme de préférence ou de dégoût pour des registres musicaux ou des artistes, qu'à la question des rapports au rap et R&B, à savoir les manières de découvrir, de catégoriser, de consommer ou juger la musique. Cette communication, elle va s'appuyer sur des matériaux de nature diverse, produits dans le cadre de différentes enquêtes. D'un côté, des données quantitatives issues de l'enquête longitudinale panel L'enfance des loisirs du ministère de la Culture, qui suivait une cohorte de jeunes Français âgés de 11 à 17 ans de 2002 à 2008. Ces données de cadrage serviront à construire notre première partie. En utilisant des variables et des indicateurs pertinents à cette échelle macro, il s'agira de montrer que de telles données, permettent de comprendre de ces goûts chez ce public spécifique dans le sillage des analyses statistiques sur les pratiques culturelles menées depuis le milieu du XXe siècle en France. Nous insisterons particulièrement sur le fait que le goût et le dégoût pour des genres comme le rap ou le R&B suivent des dynamiques particulières à l'intérieur du cycle de vie. Alors ces dynamiques, elles s'expliquent par l'avancée en âge, le respect plus ou moins fort d'un ordre du genre, pour reprendre le terme d'Isabelle Clerc, et l'apprentissage de logiques de distinction sociale. D'un autre côté, nous mobiliserons des données produites dans le cadre de deux thèses de sociologie qui portaient respectivement sur les rapports entre culture juvénile et culture scolaire appréhendés à travers l'enseignement de la musique au collège et sur la manière dont les lycéens construisent des avis a priori en matière de musique et de cinéma. Le recours à des entretiens individuels, des études de cas et des observations en classe nous permettront de détailler les modalités de réception du rap. Grâce à des outils théoriques proposés par Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron ou Bernard Lahir, et notamment l'opposition entre rapport éthico-pratique et rapport formel à la musique, j'y reviendrai plus tard, nous analyserons les expériences spécifiques des amateurs comme des détracteurs du rap. En ayant les moyens empiriques de comparer la réception spécifique du rap proposé par l'école aux manières ordinaires dont les différents jeunes écoutent cette musique, nous proposons une réflexion sur les stratégies de distinction et les profils de légitimité que les différents rapports à ce genre musical peuvent recouvrir. Donc, je vais commencer par une partie plutôt quantitative. Donc, deux phénomènes majeurs ressortent de l'analyse des données quantitatives de l'enquête L'enfance des loisirs. Le fait que le collège constitue une période où ses goûts pour le rap et le R&B sont massifs, entre effet âge et effet génération, premièrement. Et puis, deuxièmement, la prégnance des différenciations de sexe entre rap et R&B, qui tendent néanmoins à évoluer, alors qu'en fait, les deux genres se popularisent nettement à partir du collège, dans le sens où leur recrutement social devient plus populaire. Donc le rap et le R&B sont des genres particulièrement emblématiques du collège dans la génération suivie par l'enquête L'enfance des loisirs, donc génération entrée en CP en 1998. Donc sur le graphique, on peut voir que... donc en fait, oui, je ne sais pas si vous arrivez à lire bien le graphique, mais pour chaque genre, on a donc 4 années d'enquête qui montrent l'évolution du goût pour chaque genre au cours de l'adolescence, donc de la fin du primaire au début du lycée. Donc on voit tout d'abord dans ce graphique qu'on a une nette prédominance du rap hip-hop et du R&B aux côtés d'autres genres comme le rock, les variétés et la techno dans les goûts des adolescents. Donc, par opposition à d'autres genres comme la musique classique, opéra et le jazz. Donc ça c'est vraiment le premier constat qu'on peut faire à la lecture du graphique. On voit que les genres qui rap, hip-hop et R&B qui sont au milieu du graphique sont ceux qui correspondent au plus fort pourcentage de goût. Mais il est aussi intéressant de souligner une certaine similarité de l'évolution du rap et du R&B au cours de l'adolescence. Ainsi, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils se distinguent par une variation de popularité en cloche, à savoir que ce goût progresse fortement chez les enquêtés avec l'arrivée au collège pour connaître ensuite un déclin relatif au lycée, à l'inverse par exemple des variétés françaises et internationales qui suivent une distribution en U. L'évolution du rap et du R&B se distingue également de celle de la techno, de la musique du monde et surtout du rock, qui sont elles des préférences qui vont progresser tout au long de l'adolescence. Alors il est intéressant de souligner que ces styles de musique particulièrement plébiscités au cours du collège sont justement ceux que les parents des enquêtés apprécient le moins, donc qui sont aussi interrogés dans le cadre de l'enquête L'enfance des loisirs. Et ces parents des enquêtés adolescents sont seulement 5,5 à citer le rap comme préférence musicale et 6,5% à citer le R&B. Donc le collège est une période durant laquelle ce sont les genres les moins répandus chez les auditeurs des générations précédentes et notamment chez les parents qui sont les plus populaires. S'il est vain de tenter d'identifier des trajectoires typiques en matière de pratique d'écoute et de goûts musicaux durant l'adolescence, il semble néanmoins possible de modéliser les modes d'engagement dans la musique durant cette période par une carrière d'auditeur. Donc on peut essayer de schématiser les étapes. Au collège, période d'investissement dans l'écoute musicale et de découverte de nouveaux genres musicaux par rapport à ceux écoutés dans le cadre familial, les adolescents vont privilégier nettement les styles propres à leur génération, comme le rap et le R&B, dans un contexte de standardisation des goûts musicaux portés par les groupes de pairs et les principaux médias. Donc l'effet génération et l'effet âge, effet âge qu'on peut caractériser ici par le fait de privilégier particulièrement les genres de sa génération, se combinent à ce moment du cycle de vie, ce qui permet de comprendre la forte progression du rap et du R&B, et inversement, la désaffection vis-à-vis d'autres catégories musicales, pourtant populaires en fin de primaire, comme les variétés françaises et internationales, qui sont par ailleurs les plus citées par les parents des enquêtés pour caractériser leurs goûts musicaux. Une fois arrivés au lycée, les adolescents deviennent plus nombreux à être ouverts à des styles musicaux appréciés par d'autres générations, donc toujours les variétés, mais aussi le rock ou les musiques du monde, dans une logique de diversification et de singularisation des goûts musicaux, ce qui occasionne une désaffection relative par rapport au rap et au R&B. Ensuite, pour résumer à grands traits les évolutions du poids de l'origine sociale et du sexe sur le goût pour le rap et le R&B au cours de l'adolescence, on peut commencer par souligner le caractère très genré de ces deux styles musicaux, qui tend néanmoins à évoluer avec l'avancée en âge. Donc on peut constater à la vue de ce tableau que la forte progression du rap hip-hop et du R&B ne s'opère pas du tout de la même manière chez les filles et chez les garçons. Tout d'abord, le rap est plus cité par les garçons tout au long de l'adolescence, le constat inverse valant pour le R&B. Néanmoins, au moment du collège, l'écart selon le sexe est beaucoup plus marqué concernant le R&B. Donc on a au moins 13 points d'écart contre maximum 3 dans le cas du rap. Et il semble donc que le R&B, genre féminin, soit plus clivant que le rap, genre associé au masculin, au moment où prédominent justement ces deux genres musicaux dans les goûts des adolescents. On retrouve ici la logique que décrit Dominique Pasquier dans Culture lycéenne, où elle souligne qu'on a des biens culturels masculins qui peuvent être perçus comme désirables par les filles au moment de l'adolescence, mais que la réciproque n'est pas vraie, avec un certain rejet masculin des goûts associés au féminin. Cependant, on peut souligner une évolution intéressante au moment du lycée, alors que les écarts de sexe ils restent relativement stables concernant le R&B, ils se creusent sur le rap. Cela intervient dans un contexte dans lequel en fait, le rap et le R&B deviennent plus clivants socialement, donc ce qui est perceptible depuis la fin du collège, et ces genres disparaissent en fait, du trio de tête des préférences musicales des enfants des classes moyennes et des classes supérieures, tandis qu'ils restent en tête des préférences citées par les lycéens de classes populaires. Donc tout se passe ici comme si l'ancrage populaire plus marqué du rap se traduisait par une masculinisation accrue du genre, tandis que la tendance d'ensemble qui est soulignée par Octobre, Détré, Merclé et Bertonnier sur les différentes pratiques culturelles est, à l'inverse, une atténuation des clivages de sexe, accompagnant une accentuation des écarts selon l'origine sociale à partir de la fin du collège. Donc là, on voit que dans le cas d'une préférence masculine qui se popularise comme le rap, cette tendance générale ne s'applique pas. Donc maintenant, on va s'intéresser au mode de réception spécifique du rap et du R&B et à la manière dont celles-ci peuvent être le support de formes de distinction sociale. Donc, d'abord, on va évoquer le fait qu'on assiste à un rapport éthique qui va être très présent. Tout comme ont pu l'observer Christian Baudelot, Marie Cartier et Christine Détré ou encore Fanny Renard au sujet de la lecture, le rapport aux musiques hip-hop qu'on trouve le plus couramment chez les jeunes enquêtés pourrait être qualifié d'éthico-pratique, pour reprendre le terme employé par Bernard Lahire. L'appréhension pratique de la musique est commune à beaucoup de genres chez les jeunes auditeurs. Ces derniers repèrent des musiques qui remplissent plus ou moins efficacement des fonctions, et notamment des fonctions sociales et corporelles. Donc faire danser, permettre de délirer entre potes, ambiancer, des musiques qui font bader ou qui motivent, etc. Donc c'est ce qu'on peut voir dans les propos de cette enquêtée, Stéphano, donc qui est en première S, et dont la mère et le père sont commerçants. Donc il dit, le rap US, on met ça dans la sono quand on joue au basket, ça motive quoi. En plus, comme on entend bien les basses derrière, ça va bien avec le dribble, donc ça passe. Et comme on aime tous cette musique-là, on chante, on rigole. Fin de citation. Mais ce qui caractérise le rap et le R&B plus spécifiquement, y compris par rapport à d'autres musiques populaires contemporaines plébiscitées par les adolescents, c'est l'importance de l'appréhension éthique. Celle-ci est mobilisée à la fois par les amateurs et par les détracteurs de ces musiques pour justifier leur goût et leur dégoût. Les prises à cette appréhension éthique sont notamment les paroles des chansons, l'attitude et l'apparence physique des artistes, telles qu'elles transparaissent dans les clips, les interviews, etc. Les jugements moraux qui sont proposés par nos enquêtés concernent l'authenticité, la violence, la vulgarité, le sexisme, le respect des stéréotypes de genre, des thématiques qui peuvent appuyer un goût ou inversement un dégoût pour les mêmes musiques suivant les auditeurs. Plusieurs études ont déjà insisté sur le fait que beaucoup d'amateurs de rap évaluent l'offre musicale à l'intérieur de ce style par l'authenticité dont font preuve les artistes dans leurs textes. Ceux-ci doivent décrire leur vraie vie et doivent dire quelque chose de véritable ou d'utile sur leur environnement social, économique. Les artistes sont souvent d'autant mieux jugés que les textes sont vus comme moralement valides de ce point de vue. Mais cette prise de l'authenticité du texte, qui concerne particulièrement la réception du rap en français, n'est qu'un aspect du rapport éthique qui domine les appréhensions ordinaires des jeunes auditeurs qu'on a pu rencontrer. Ainsi, pour les enfants des milieux populaires, qui sont les plus enclins à respecter l'ordre du genre, toujours en reprenant ce terme d'Isabelle Claire, le goût ou le dégoût pour le rap et le R&B est particulièrement lié à des formes d'identification genrée, ce qui permet d'ailleurs de mieux comprendre les statistiques qu'on a évoquées tout à l'heure sur les différences filles-garçons. Le risque de dévirilisation pour les garçons est particulièrement important et ils sont donc attentifs à tous les éléments textuels mais aussi physiques, de vie privée, etc., qui permettent de savoir si l'écoute de l'artiste ne met pas en jeu une perception et un affichage de soi comme vrai garçon. C'est par exemple ce qu'on peut retrouver dans cet extrait d'entretien d'un enquêté qui est en terminale bac pro et dont la mère est téléconseillère diplômée du CAP. Donc il nous dit « En fait, ça, c'est le lecteur MP3 de ma sœur, je lui ai braqué. » Et il y a encore quelques-uns de ses titres à elle. Donc l'enquêteur lui demande « Et du coup, tu les écoutes aussi ?» Là, l'enquêté dit « Non. » On lui demande « Et c'est plutôt quoi, alors ?» Il répond « Chanteuse R&B, des filles qui traînent en mini-jupe et tout ça, là. » Matt Houston, c'est grâce à lui que le R&B en France a commencé à être pris au sérieux. Il avait fait R&B de rue, ou est-ce qu'il disait que le R&B, c'était une version du rap, mais en plus doux. Mais ça vient de la rue, c'est pas un truc de pédale, normalement. Fin de citation. À l'inverse, quand l'affichage d'une virilité exacerbée ou d'une féminité trop entièrement émotionnelle ou sexuelle pose un problème éthique, ce qui est plutôt le cas pour les jeunes enquêtés issus de milieux diplômés, c'est aussi cet aspect qui est mobilisé pour justifier en priorité le dégoût inspiré par certains artistes. Donc c'est ce qu'on voit dans cet extrait d'entretien donc de Stanislas, qui est en première ES, et dont la mère est diplômée du supérieur. Je cite « Si on file un lien YouTube avec une image d'un type qui fait le beau, le dur, je vais même pas cliquer. C'est un peu le problème que j'ai par rapport au hip-hop, tout ça. C'est qu'il y a de la bonne musique, mais je connais pas assez pour trouver les trucs qui m'intéressent. Si tu veux découvrir comme ça, souvent c'est les clips. Toujours les mêmes, avec les femmes en petite nue, comme s'il y avait vraiment besoin de ça. C'est une logique commerciale. Du coup, je connais des gens qui connaissent vraiment bien, qui peuvent me faire découvrir des bons trucs. » Fin de citation. Cet extrait d'entretien montre que certains détracteurs ne condamnent pas nécessairement l'ensemble du genre par ce jugement éthique. Ils peuvent s'appuyer sur celui-ci pour exclure l'offre vue comme la plus médiocre au sein du genre. On voit particulièrement ce cas de figure chez les enquêtés les plus dotés en capital culturel, qui vont adopter une posture d'éclectique éclairée et essayer de trier le bon grain de l'ivraie dans le rap. Si la disqualification peut être éthique, le jugement positif va être esthétique. On va s'appuyer, comme Stanislas, sur des sources de découverte qu'il va considérer comme sérieuses, qui montrent qu'on s'y connaît, et on met en avant les qualités purement artistiques des bons rappeurs. Comme le fait Stéphanie Molinero, on peut utiliser comme indice de ce rapport esthétique l'intérêt porté à des aspects formels comme le flow ou l'instru. Mais nos entretiens et l'enquête statistique menée sur 833 lycéens rhône-alpins par Thomas Legon montrent aussi que les auditeurs qui ont grandi dans les familles les plus diplômées ont par exemple plus de chances de vouloir posséder leur album préféré en version originale et d'écouter ces derniers sans rien faire d'autre, concentrés sur la musique. Autant de rapports à la musique qui sont censés maximiser le plaisir esthétique de l'écoute aux yeux des amateurs. Si ces modalités d'écoute sont fréquemment identifiées à propos du rap, les réceptions esthétiques du R&B sont beaucoup moins fréquentes chez nos enquêtés. Le fort caractère féminin du genre, notamment de son public, et l'absence relative d'intermédiaires militant pour la reconnaissance d'une qualité proprement artistique du genre expliquent sans doute qu'un rapport esthétique légitime soit encore difficilement envisageable pour les auditeurs. Pour terminer, on peut souligner le profil de légitimité donné par cette appréhension plus esthétique du rap. Tout d'abord, celle-ci est présentée dans les entretiens comme le fruit d'une évolution dans la carrière d'auditeur. Le fait de s'être détaché de certaines sources de découvertes mainstream comme Skyrock, d'avoir appris à catégoriser correctement les artistes, à les situer dans l'histoire de l'art, est toujours raconté comme une amélioration de soi. Comme le remarque Bernard Lahire, comment ne pas voir alors comme moins avancés les pairs qui ne manifestent pas une telle évolution ? Donc c'est ce qu'on peut voir dans les propos de Stanislas, que je vais vous remettre tout de suite. Oh. Pardon. Voilà, donc on lui demande, il y en a qui aiment bien ce côté-là, Donc là, en fait, la conversation, elle porte sur la mise en avant de la virilité et de la richesse économique dans les clips de rap, qui sont des aspects en fait, qui dégoûtent beaucoup Stanislas. Et donc Stanislas nous répond « Ouais, ben ouais, les ados, ouais, certainement. » C'est vrai que j'ai tendance à trouver qu'il y en a quand même beaucoup qui sont assez bêtes, quoi. Fin de citation. Ensuite, on peut supposer que ce rapport au rap est d'autant plus facile à voir comme une évolution positive qu'il peut commencer à s'appuyer sur la validation de certaines institutions, comme l'école. Ainsi, il est fait, alors certes à la marge, mention du rap dans les programmes, notamment avec une mention d'un artiste d'Human Beatbox dans le texte d'accompagnement des programmes de 2008, à la différence du R&B qui, lui, n'est jamais cité par les programmes ou mobilisé par les professeurs de musique qu'on a observés. Mais c'est surtout l'observation des pratiques d'enseignement qui est intéressante par rapport à la question de la réception du rap, celle-ci montrant que les enseignants s'appuient sur le rap pour finalement évoquer la forme des morceaux, l'idée étant de parvenir à passer d'un jugement à chaud, sensible et corporel, à un jugement à froid, analytique et armé de quelques catégories savantes ou de quelques repères historiques. Durant la période de l'enquête qu'on a menée, des artistes comme Grand Corps Malade et Abdel Malik vont être mobilisés parce qu'ils sont considérés comme des passeurs d'autres genres comme la chanson française patrimonialisée, par exemple. Et donc, ils sont mobilisés par les enseignants comme des appâts censés intéresser les élèves et les amener vers des musiques patrimoniales, mais aussi comme des supports pour aborder l'aspect formel de la musique, qui est une dimension caractéristique de l'écoute savante. Donc pour conclure, la forte dimension générationnelle des musiques rap et R&B qui leur vaut encore aujourd'hui une image de musique de jeunes tend à masquer toute une série de phénomènes. Tout d'abord, si en effet il y a un effet d'âge qui est sensible, notamment au début du collège, le fait d'observer une même cohorte d'adolescents pendant à peine quelques années suffit pour révéler les clivages sexués et sociaux qui s'opèrent parmi les auditeurs. De même, si une appréhension éthique caractérise les musiques hip-hop depuis leur diffusion au grand public, comme le montre par exemple Karim Amou, on voit qu'il est possible pour une partie des jeunes des années 2000 de développer des rapports esthétisants au rap qui auraient été sans doute plus difficilement envisageables 15 ans auparavant. Le fait de voir ce genre musical rentrer timidement dans les salles de classe à travers une écoute savante et analytique représente un bon indice de cette mutation en cours. Comme pour d'autres objets culturels, cette appréhension esthétique ne devient possible que si les individus ont pu connaître les conditions qui rendent le rapport esthétique envisageable comme une source de plaisir dans un contexte familial, amical ou encore scolaire. Je vous remercie.